Donc j'ai l'honneur de présenter Jacques. Alors, je suis très content de le présenter parce que Jacques, il représente bien ce qu'est l'INRP à mon avis. C'est un enseignant qui travaille Orléans, dans l'Académie d'Orléans, qu'on voit souvent à Lyon parce qu'il travaille aussi avec l'INRP. Donc il partage son temps, qui serait un temps avec la moitié de son temps donc devant ses élèves, avec les réalités du terrain, avec les contraintes. On parlait récemment des grèves en particulier, qui son programme qui était retardé. Je crois qu'il est sur le terrain. Et puis parallèlement à ça, eh bien il va conduire une réflexion sur le travail, sur l'évolution, sur l'innovation. Et il le fait au sein de l'équipe. Qui est notre équipe à nous, qui est l'ERT Access. Naoum est là, il est responsable de l'ERT, enfin, il était là tous les quelques instants. Ce que je voulais dire, c'est que Jacques, la première fois que je lui ai demandé, il m'a dit non. La deuxième fois, il m'a dit peut-être. Et la troisième fois, il m'a dit oui. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des choses à demander à Jacques, il faut demander trois fois pour qu'il vienne parler dans une rencontre. Merci.
En fait, Eric ne dit pas tout, mais il m'a demandé aussi de revenir pour la semaine prochaine. Donc, comme j'habite Tours, c'est vrai que mes déplacements ne sont pas facilités. Donc, je suis effectivement enseignant associé à l'INRP. Depuis plusieurs années maintenant, et donc j'ai la tâche d'encadrer une équipe d'enseignants sur l'Académie d'Orléans-Tours, et donc je travaille dans le cadre d'une ERT, donc une équipe de recherche technologique appliquée à l'éducation, dont la mission essentielle est de participer à l'actualisation des connaissances des enseignants en sciences. Et donc je vais présenter là tout à l'heure un ensemble de travaux de l'ensemble de l'équipe. Et je précède Marie-Josée Brousseau qui prendra le relais, puisque l'essentiel de notre travail donc, a porté sur un travail qui a été mené en collaboration avec le BRGM. C'est un travail autour de la gestion des nappes phréatiques, et notamment la nappe de Beauce, à travers le projet Éduterre-Usage. Il va falloir donc faire assez bref. Je vais quand même rappeler rapidement, voici mon sommaire là, pour cette présentation. Je vais faire rapidement une présentation de notre travail de recherche au niveau de l'équipe d'Orléans-Tours. Et puis, je présenterai parmi les résultats de nos travaux. Nous avons mis en ligne un certain nombre de choses sur le site académique d'Orléans-Tours. Donc, je présenterai notre dossier SIGLAB. Et puis, pour l'essentiel, donc, cette journée doit être dédiée surtout à la réflexion sur l'utilisation des outils SIG en situation de classe. Et nous, en sciences de la vie et de la Terre, nous avons quand même une situation un peu privilégiée, c'est que nous avons quand même la possibilité de travailler avec des effectifs réduits et de travailler donc en situation de travaux pratiques. Et pratiquement tous les exemples que je vais vous proposer cadrent finalement tout à fait au programme de la mise en activité des élèves en utilisant des systèmes d'information géographique. Parmi les applications pédagogiques, je souhaiterais donc mettre en parallèle deux types d'outils. Des outils en ligne et puis des outils utilisables en local avec les élèves. L'un et l'autre pouvant présenter un certain nombre d'avantages, donc nous en reparlerons tout à l'heure. Le SIG en ligne est proposé par une université américaine, c'est l'université de Cornell à New York. Ce qui présente un gros avantage, c'est que le TP ne se termine pas, les élèves peuvent reprendre les activités au CDI ou à la maison. Et puis on opposera donc à ce SIG en local les possibilités offertes par on opposera donc à ces SIG en ligne les possibilités offertes par un SIG en local. Celui que nous avons sélectionné, c'est Arc Explorer. Il est gratuit, mais on a testé d'autres outils, nous en reparlerons. Et ces travaux qui ont commencé en 2002, c'était bien avant l'émergence de ces nouveaux outils Whirlwind, Google Earth et IGN Portail, et les choses vont très vite dans ce domaine et bousculent un petit peu nos habitudes. Et puis bon, je terminerai peut-être par quelques bilans et perspectives. Alors rapidement, l'historique de la recherche de notre équipe, l'équipe INRP ERT Access qui participe à l'actualisation des connaissances a été mise en place en 2002 et on nous a chargé sur l'Académie d'Orléans-Tours, on ne parlait pas de SIG à l'époque, on nous a demandé de faire un repérage des banques de données disponibles sur Internet, des banques de données spécialisées en géologie et en climatologie. Et on nous avait même demandé à l'époque de travailler sur les banques de données en génétique. Pour la géologie et la climatologie, donc, nous sommes en 2002 et à propos de ces banques de données, on nous demandait aussi de nous intéresser aux outils de traitement en ligne. Cet inventaire a révélé que finalement il existait un très grand nombre de données disponibles sur Internet, des données fournies par les chercheurs et qui présentaient un très grand intérêt sur le plan scientifique et sur le plan pédagogique, et que l'essentiel de ces données était géoréférencé et pouvait être utilisé avec des signes. À partir de 2004, on nous a confié une autre mission. Nous sommes un petit peu écartés de la géomatique et on nous a demandé de nous consacrer, de prendre en compte un autre élément de réflexion et d'outils, c'est la modélisation. Et nous avons travaillé depuis 2004 sur la modélisation du cycle du carbone et ses impacts climatiques. Mais le travail et la réflexion se sont poursuivis autour des outils SIG. Et nous avons poursuivi donc un travail sur la place des SIG dans l'enseignement des SVT, avec deux projets qui ont été menés un peu en parallèle. Il y a le projet localisé sur l'Académie d'Orléans-Tours, donc un dossier SIG Lab, et puis un projet mené avec le BRGM, donc Éduterre Usage, qui sera présenté en fin de matinée par Marie-Josée Brousseau tout à l'heure. Notre équipe donc a produit un certain nombre de résultats pendant ces quelques années. Nous avons fait donc rapidement donc un inventaire des outils SIG. Sylvain en a parlé tout à l'heure. Donc il y a actuellement donc une étude comparative des SIG qui a débuté et les résultats de cette étude sont disponibles sur un site qui est le site de Éduterre Usage. Nous en reparlerons tout à l'heure. Les outils qui ont été explorés sont des outils gratuits, libres de droit, Arc Explorer, Divagis, Forestrigis et les autres. La situation évolue extrêmement rapidement. Sylvain en parlait, il est nécessaire de maintenir cette veille scientifique. Deuxième résultat de nos travaux, nous avons donc mis en ligne un dossier sur le site de l'Académie d'Orléans-Tours. Ce dossier présente donc une prise en main des principaux outils dans le cadre de l'actualisation des connaissances et des apprentissages pour les enseignants. Eh bien, on propose donc une prise en main d'un certain nombre d'outils. Le SIG du BRGM, InfoTerre, le SIG en ligne que je présenterai tout à l'heure, donc le site de l'Université de Cornell, le SIG en local, Arc Explorer. Et puis, ben, on assiste à une très grande diversification des SIG spécialisés sur Internet, des SIG qui sont parfois très, très pointus. Et donc, il y a eu une analyse qui a été faite également concernant un SIG qui permet de faire une étude des formations récifales des récifs coralliens. Il s'agit du SIG Rive Base. Et puis, depuis 2005, depuis quelques mois, ben, nous suivons avec un très grand intérêt le développement d'autres SIG comme Google Earth. À côté de la prise en main de ces outils, vous trouverez donc sur le site de l'Académie d'Orléans-Tours des applications pédagogiques qui sont ciblées et puis une banque de données utilisable avec Arc Explorer. Alors, je n'ai pas le temps d'aller voir cette page. Je vous invite, si cela vous intéresse, à aller voir donc ce dossier. Alors, concrètement, je vais donc faire une présentation des deux démarches possibles utilisant un SIG en ligne et un SIG en local. Et donc, le SIG que nous avons choisi pour traiter les programmes de géologie de la classe de 4e à la classe de terminale, c'est le SIG de l'Université de Cornell. Ce SIG se présente sous la forme de deux modules. Il y a un module qu'on pourrait appeler un module expert, qui propose une très grande diversité de données. La banque de données est extrêmement complète et comme nous le verrons tout à l'heure, c'est un outil qui est facile à utiliser avec des élèves en situation de classe. Et à côté du module expert, il existe un module simplifié que l'on peut utiliser avec des élèves dès le collège pour faire une initiation à l'utilisation des SIG, donc très tôt. Ce module simplifié, donc est déjà simplifié au niveau des outils disponibles, au niveau de la banque de données qui est accessible. Et puis également, il présente un avantage, c'est qu'au fur et à mesure que l'élève va élaborer des pages, des cartes, celles-ci vont être stockées dans un historique, ce qui permet à l'enseignant de pouvoir suivre le travail des élèves. Alors pour les applications pédagogiques, d'abord donc présentation de ce SIG de Cornell, donc il se présente sous cette forme-là, donc il va y avoir bien sûr la carte. Et puis on va avoir donc un accès aux données par un bouton. Alors c'est un SIG universitaire américain, il est en anglais. Pour l'avoir utilisé avec des élèves, ça n'a pas posé de réelles difficultés. Lorsqu'il y a un mot un peu difficile, il est défini et très rapidement, les élèves évoluent sur cet outil. C'est un outil assez intuitif. Hein. Donc on va accéder aux données, on va avoir la possibilité de choisir une région, on va également avoir un accès ici à une palette d'outils, et puis chaque fois que l'on a fait un certain nombre de sélections, on lance la requête et une nouvelle image va s'afficher. La sélection apparaît ici dans le bas de l'écran. Et puis, ce qui est très intéressant, dans le cadre d'un travaux pratique, où finalement le temps tout de même nous est compté, c'est que l'élève a la possibilité de récupérer ses images, de récupérer ses cartes au format JPEG, et éventuellement donc de rédiger un dossier ou de rédiger un compte-rendu de TP. Donc, première étape, l'élève va choisir une région. Donc, la sélection de la région peut être déjà prédéfinie. On peut définir l'Asie ou l'Europe, mais on peut aussi choisir sa région en rentrant directement les latitudes et longitudes. Et puis, on peut aussi tout simplement sélectionner une région en cliquant dans la carte. Donc, la sélection se fait rapidement. L'élève va choisir ses données. Donc là, je suis dans le module expert. Donc, la banque de données est riche. Il y a, lorsqu'on va sélectionner des données, celles-ci vont apparaître dans le bas de l'écran, ici. Donc, au fur et à mesure, donc l'élève va choisir des données géographiques. Donc il y a les lacs, les rivières, les villes essentiellement. Les données géologiques, on va voir les volcans, on va voir quelques cartes géologiques, on va voir des aquifères, on va voir des données liées à la géophysique, donc la sismicité, les vecteurs GPS, et puis également des images qui sont géoréférencées, qui peuvent être affichées donc, dans le fond de l'écran, la topographie des fonds océaniques, donc on pourra faire des coupes et voir donc le relief, mais on peut aussi avoir donc la position de la discontinuité de morovistique entre la croûte et le manteau, faire des coupes. On peut avoir donc également des informations concernant la vitesse de propagation des ondes P ou des anomalies gravimétriques ou l'âge des fonds océaniques. Donc la banque de données est extrêmement riche et très bien adaptée à un très grand nombre d'activités dans le cadre des programmes de lycée, notamment. L'élève a choisi une région, il a choisi des données, il va choisir un outil. Alors parmi les outils, il n'y a pas avec le SIG en ligne la possibilité de lancer des requêtes attributaires, par exemple, mais on peut avoir de l'information ciblée sur chaque point qui apparaît affiché dans l'écran, donc ce qu'on appelle « Identify ». On peut également importer des données, si on a des données que l'on a trouvées sur une autre banque de données, et donc faire un travail beaucoup plus personnalisé, si on le souhaite. La possibilité d'afficher une grille en latitude, longitude. Mais surtout, ce qui nous intéresse, on a parlé du 3D là tout à l'heure, c'est de pouvoir faire des coupes, donc des profils pour apercevoir le mot ou pour tout simplement voir le profil topographique. Au fur et à mesure que l'élève va constituer ses images, donc il a la possibilité de les légender avant de les exporter pour les intégrer par exemple dans un compte rendu. Voilà. Alors quelques applications rapidement. Donc cet outil, ce sont bien sûr pas des exemples, ce sont des pistes qui ont été suivies par certains collègues. Et donc là, c'est une utilisation en classe de quatrième. Il nous semble que les systèmes d'information géographique peuvent être très rapidement mis à la disposition des élèves. Très tôt, ça ne pose pas trop de difficultés. En classe de quatrième, notamment, donc on a, dans le cadre des programmes, on doit définir les caractéristiques d'une zone de subduction. Eh bien, on va utiliser le SIG simplifié de Cornell. Et donc, la première image, c'est l'affichage des fonds océaniques. l'âge des fonds océaniques. Et déjà, voir, c'est comprendre, voir, c'est poser des questions. Et la répartition de l'âge de des fonds océaniques, notamment pour l'océan Pacifique, pose problème. Donc on voit notamment qu'on a des âges qui sont relativement récents au contact entre la plaque Pacifique et le continent sud-américain, alors qu'on a des âges qui sont très élevés au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers l'ouest. Donc là, il y a un problème et qu'il va falloir résoudre. Et donc, on va s'intéresser, poser la question, formuler des hypothèses, chercher des explications possibles. Et on va peut-être retenir soit l'érosion, soit la subduction. Et donc, on va travailler sur différentes hypothèses. Et donc, à partir de là, l'élève va, tel un film, afficher un certain nombre d'images. Il va sélectionner une région, il va travailler sur le continent sud-américain. Il va travailler sur la topographie, il va travailler sur les fosses. Alors ça n'apparaît peut-être pas très bien ici sur cette image, mais donc il va avoir donc la fosse pacifique qui est surplombée par la cordillère des Andes. Donc il va faire une étude sur la topographie. Et puis ensuite, il va pouvoir afficher les séismes, tous les séismes. Et puis il a la possibilité, avec ses outils, de voir donc la profondeur des foyers des séismes et pas à pas voir comment ils évoluent sous le continent sud-américain. Donc ici, par exemple, il va pouvoir afficher tous les séismes qui sont entre 500 et 600 km de profondeur. Donc ce qui suggère finalement l'existence d'une plaque qui subducte, qui s'enfonce à la verticale de la cordillère des Andes. Il peut aussi s'intéresser donc à la répartition du volcanisme dans cette même région. Et donc il va, un certain nombre d'activités, où il va utiliser un SIG pour cartographier des zones sismiques, des zones volcaniques, où il va mettre en relation, donc cette mise en relation de ces différentes couches, de toutes ces informations, mise en relation de l'activité sismique avec l'activité volcanique, pour définir les caractéristiques d'une zone de subduction. Et on peut revenir sur la carte à la fin et donc finalement repérer à partir de là quelles sont les zones de subduction de la planète Terre. En premier S, on va aussi, alors donc toujours là je cible sur des activités en rapport avec les programmes, donc c'est un petit coup de projecteur, hein, très peu de temps avec des élèves de premier S en activité de travaux pratiques, montrer que les dorsales sont des frontières divergentes, le point de départ c'est le même, l'âge des fonds océaniques. On va utiliser le SIG pour cartographier donc l'âge des fonds océaniques. L'élève va pouvoir exporter ces images et les légender. Et puis, parmi les outils, la possibilité de faire une coupe. Donc, il y a une très grande richesse lorsque l'on utilise finalement les systèmes d'information géographique. On peut diversifier les activités au sein de la classe. Et donc pour l'élève qui va travailler sur la dorsale médio-atlantique, il va sélectionner, alors on le voit dans le bas de l'écran, il a sélectionné une petite région de l'Atlantique Sud. Et à partir de là, donc on affiche l'âge des fonds océaniques. On peut identifier l'âge de ces fonds en cliquant directement sur la carte. Et puis on va faire une coupe à partir de laquelle il va pouvoir déterminer l'âge des fonds océaniques et surtout la vitesse d'expansion des fonds océaniques. Est-ce que toutes les dorsales ont une activité identique compte tenu de la diversité? En terminale S, définir les caractéristiques d'une frontière convergente. Donc voilà, de la même façon, l'élève va pouvoir stocker un certain nombre d'informations. Et ce qui est important, c'est qu'au cours de son TP, il va pouvoir sauvegarder un certain nombre d'images et puis faire un compte-rendu. Donc le SIG de Cornell est un SIG à usage scolaire. Il est utilisable en classe, il est utilisable au CDI. Il permet de consolider l'initiation à l'utilisation d'un SIG. C'est un outil simple et complet. Mais nous avons souhaité également faire un travail sur un autre SIG, donc un SIG en local. Alors de la même façon, vous connaissez tous Arc Explorer. Donc Arc Explorer, on peut l'utiliser de la même façon pour faire de la géologie, pour étudier les frontières divergentes, les frontières convergentes. J'ai voulu donc ici donner un exemple d'utilisation à travers la crise Crétacée-Paléocène. Nous sommes en terminale. Nous devons découvrir le couplage entre les événements géologiques et les événements biologiques. deux hypothèses sont à tester, hypothèse cosmique ou planétaire, eh bien on va utiliser le Sea Gark Explorer pour retrouver le cratère météoritique qui est le plus idéal qui pourrait être responsable de cette crise biologique. On lance une requête, on va prendre en considération l'âge des cratères météoritiques et leur diamètre, et on va trouver Csicxulub, hein, qui est le cratère qui pourrait être impliqué dans cette crise. De la même façon, on pourra faire donc une requête sur les TRAPS et identifier donc les TRAPS du décan. Alors bien sûr, on n'a pas toute la solution, mais c'est le point de départ à partir duquel l'élève va pouvoir travailler sur des documents. On a parlé tout à l'heure du travail sur les images satellites. On peut également, à l'occasion de l'école de terrain, et donc ça a été fait avec des élèves de première S. En 2003, nous sommes allés parcourir donc la région alpine, dans la région de Briançon, et chaque étape, chaque observation de l'école de terrain a été conduite en utilisant une image satellite SPOT géoréférencée aux projections Lambert 2 étendue, et avec le GPS embarqué par les élèves, on a pu suivre pas à pas donc toutes les observations de terrain, et en quelque sorte l'élève était finalement immergé dans l'image satellitale. En terminale S, on a repris donc cette image satellitale à une plus petite échelle pour découvrir donc les indices de la convergence des plaques lithosphériques. 2005, de nouveaux outils apparaissent. Alors c'est Google Earth. Et avec Google Earth, donc un accès aux images satellitales est devenu immédiat. Et surtout, comme l'indiquait Guy Ménant tout à l'heure, la possibilité de superposer des couches, en particulier des couches géologiques, donc de la retirer, de l'augmenter. Et puis la possibilité de passer en 3D et là de faire une véritable lecture d'image, surtout si on a finalement ces clés de lecture de l'image satellitale. Si on a la possibilité de superposer des données géologiques, ben finalement voir à quoi correspondent les points hauts, les points bas en fonction des caractéristiques géologiques des roches. Google Earth semble intéresser le monde de l'éducation, mais également la recherche, et on trouve de plus en plus de banques de données, des scientifiques qui mettent en ligne des données concernant les activités sismiques de la planète en temps réel, l'activité volcanique, et toutes ces données sont directement accessibles et on peut travailler dessus. Cette année, avec mes élèves de première S, on a simplement utilisé Google Earth. La fiche de TP se trouve sur le site académique d'Orléans-Tours. Nous avons utilisé Google Earth pour faire une mesure de la vitesse de déplacement de la plaque au-dessus d'un point chaud. Alors pour les géologues, je rappelle donc la plaque lithosphérique donc se déplace, en particulier la plaque pacifique, se déplace au-dessus d'un point chaud. Et donc on a un certain nombre de données qui concernent l'archipel des îles Hawaï. Et donc dans Google Earth, il y a des outils qui permettent de mesurer la distance entre les différents points. Et connaissant l'âge du volcanisme, les élèves vont pouvoir, en utilisant un petit tableur, ils vont pouvoir calculer très rapidement donc la vitesse de déplacement de la plaque au-dessus d'un point chaud. Hypothèse toujours posée, est-ce que c'est le point chaud qui se déplace? Est-ce que c'est la plaque qui se déplace? La banque de données est assez riche, on peut travailler sur d'autres archipels. Alors également, avec Google Earth, ensuite on va pouvoir passer en 3D et donc faire une observation des caractéristiques des volcans hawaïens. Bilan, excusez-moi, je me suis laissé emporter au début. Donc il me semble que l'utilisation des outils SIG trouve naturellement leur place dans l'enseignement des SVT. C'est à partir de l'image que l'on voit qui permet de poser un certain nombre de problèmes et de trouver peut-être des éléments de réponse. Donc poser des problèmes, formuler des hypothèses, résoudre une énigme scientifique. L'utilisation d'un SIG par les élèves est simple et intuitive. Elle motive, on en a parlé tout à l'heure, elle motive les élèves. Dans une situation où on a des élèves qui manquent souvent d'intérêt pour la science, où la motivation pour la science finit par manquer parfois, je pense que ça redonne un regain d'intérêt finalement pour la science dans le cadre de nos TP. Voilà. Perspective, ben, je pense que la réflexion et le travail va se continuer. Autour d'Arc Explorer, nous devons développer une librairie de données. Développement de projets autour de la technologie de Google Earth et de Whirlwind et de IGN Portail, sans doute. Et puis, nous avons aussi un projet pour l'année prochaine de développement d'un outil de visualisation et de modélisation des données appliquées à la géophysique. Je vous remercie.
Désolé Jacques de t'avoir pressé avec mes langages des signes dans la salle.
Je suis désolé, mais je m'étais vraiment laissé embarquer là.
Oui.
Non, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Par contre, on te demande de montrer une application pédagogique, tu en montres 5. Donc c'est bien. Les géographes ont maintenant une idée plus précise de ce que l'on peut faire en sciences de la Terre dans les classes. Je précise quand même que Jacques est un enseignant exceptionnel. Tout le temps, ça ne se passe pas comme ça de cette manière-là dans toutes les classes. Bon, des questions peut-être dans la salle.
Sylvain.
C'est pas une question, mais c'était juste pour peut-être qu'il y ait un fil conducteur entre les différentes interventions. Jacques a bien montré SIG en ligne et SIG en local. Il faut faire attention quand même aussi au terme. Où commence, où s'arrête le SIG? On a maintenant des outils de navigation spatiale liés plus ou moins à des bases de données. Nous, on a tendance à dire, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais simplement, je crois qu'il faut qu'on ait une certaine rigueur scientifique aussi, que quand on est dans des outils de consultation, en gros, il y a plusieurs couches qu'on a superposées, on est dans un outil logiciel de navigation spatiale. Quand on commence à traiter de la donnée, c'est-à-dire à faire des requêtes attributaires, tu l'as dit, Jacques, ou des requêtes spatiales, c'est-à-dire à croiser de l'information, pas seulement à la superposer, on sort uniquement de la visualisation, ce que Guy Ménard a dit tout à l'heure, on est déjà dans le traitement, l'analyse spatiale. Là, on estime qu'on entre dans le SIG. Alors, ce que je dis est très grossier, parce que Thierry Jolivaux a sûrement des choses beaucoup plus précises à dire ensuite, mais en gros, c'est pour qu'on ait quand même l'esprit clair, pour des gens qui confondraient un peu tout. Il faut faire attention, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils autour de l'information géographique, de traitement d'information géographique, d'interrogation de l'information, et donc je crois que c'est important. Simple petite précision, où les choses sont encore plus floues aujourd'hui, c'est que vous prenez Google Earth, vous êtes aussi bien sur un serveur en ligne, vous attaquez des données qui sont en ligne, et en local, vous drapez par-dessus des images qui sont à vous. Donc on ne sait plus ce qui est en local et ce qui est en ligne. Donc on va aussi vers une intégration des outils qui fait que c'est de plus en plus convivial, mais c'est aussi de plus en plus flou, finalement, entre ce qui est de l'ordre de l'outil en ligne ou de l'outil en local. Voilà, c'est simplement une remarque.
Sylvain, je te prends le micro. Bon, pour la salle, donc pour une question peut-être. Bien. Ça sera juste une courte.
Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir une démonstration de Jacques Barrère sur les SIG et je me suis penchée un petit peu plus près et je suis allée utiliser le SIG de Cornell. Et j'étais un petit peu déçue par la qualité des images, finalement. Par exemple, dans l'exemple de TS, de la convergence en TS qu'on utilise au niveau du Japon, par exemple, je trouvais que, par exemple, quand on affichait les séismes, il y avait une superposition de données, d'informations sur une petite image qui rendait l'image pas facilement lisible. Je dis ça par rapport aux outils qu'on utilise comme sismologue, où on a un grand écran, une grande image, une lisibilité assez importante. Alors, est-ce que j'ai mal utilisé le site? Mais j'ai trouvé que la qualité de l'image était petite, il y avait beaucoup de données superposées qui rendaient la lisibilité de l'image pas facile.
Je crois qu'effectivement, lorsqu'on superpose effectivement beaucoup de données, la carte est difficilement lisible. Et donc, il faut en particulier, je pense que si on superpose un fond d'image avec la topographie plus... ensuite les données sismiques, si on fait une exportation de l'image, c'est vrai qu'on perd en lisibilité parce qu'il y a la palette des couleurs n'est pas très bonne, mais ce sont des outils qui sont anciens, hein. J'ai parlé de 2002 et je pense qu'on devient de plus en plus exigeant et les choses vont de plus en plus vite, mais je crois qu'on va pouvoir basculer maintenant sur des outils qui sont beaucoup plus performants. Le tout, c'est de suivre.
Minute de retard, mais on va rattraper notre retard. Non, pas rattraper notre retard, on va s'arranger de manière.
On est en train de remonter le temps, on va y arriver.